J'aimerais commencer par vous faire la lecture de quelques lignes que j'ai trouvées sur un blog, sur Internet, un blog qui s'appelle Forum des ados. Alors que je faisais une recherche sur le sujet du favoritisme. Ce message date déjà de quelques années puisqu'il a été posté le 23 août 2011. J'aurais pu en trouver des plus récents. Salut, j'ai un gros problème qui me pèse depuis quelques années maintenant. Mes parents font du favoritisme. J'ai 15 ans, ma sœur 8. Quand j'étais petite, je n'ai jamais posé de problème à mes parents, ni quoi que ce soit. J'étais super sage et docile. Je travaillais super bien à l'école. Puis ma sœur est venue quand j'avais 6 ans. Elle était tellement nerveuse. Elle me griffait tout le temps, me frappait, me mordait. Et parfois, ça allait jusqu'au sang. Mais bon, je me suis dit que c'est parce qu'elle était trop nerveuse et tout. Et puis ça s'est calmé depuis qu'elle a environ 7 ans. Elle n'est franchement pas super à l'école en plus. Et puis maintenant, mes parents lui accordent toute leur attention. Moi, je suis quasi inexistante. Surtout de la part de ma mère. Ma sœur a depuis ses 7 ans toujours été plus chouchoutée que moi. Par exemple, je demande à mes parents de me ramener des chips, ils disent non. Juste après, ma sœur le demande et c'est oui. Ma mère lui fait toujours des câlins. Elle l'embrasse, elle l'appelle ma chérie. Alors qu'avec moi, elle a une relation tellement froide. Elle ne partage absolument rien si ce n'est la maison. Quand elle me parle, c'est parce qu'elle est obligée, donc par nécessité, seulement rien de plus. Ça me met hors de moi. J'ai déjà explosé en pleurant et en leur parlant de ça. Mon père a commencé à rigoler. Et ma mère a pris ça à la légère et a tout nié. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Quand je vais chez mes amis et que je vois la relation qu'elles ont avec leur mère, quelquefois je m'enferme dans leur toilette parce que j'ai déjà envie de pleurer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et merci pour toutes celles qui ont lu jusqu'au bout. Il y a parfois du favoritisme dans les familles. S'il est parfois réel, il peut être aussi imaginé. Mais qu'il soit réel ou imaginé, qu'il existe objectivement ou seulement dans la tête de l'enfant, parfois du parent, il produit toujours de la souffrance et des dysfonctionnements importants dans les relations familiales. Qui peut dire combien de vies ont été détruites, chamboulées par du favoritisme. Ce matin, comme annoncé dans la feuille du mois, j'aimerais commencer avec vous une série sur un personnage bien connu de la Bible, dont le nom est Joseph, fils de Jacob. Et il se trouve que Joseph était le chouchou de son père. Il se trouve aussi que ce favoritisme au sein de cette famille va engendrer de grands problèmes et de grandes souffrances dans cette famille, comme nous allons le constater. Dans l'immédiat, je vous invite à lire avec moi, en suivant dans vos Bibles, ou alors le texte qui va être projeté, le chapitre 37 du livre de la Genèse que nous allons méditer ce matin. La lecture est un petit peu longue, mais il me semblait important de traiter le chapitre dans son ensemble. Genèse chapitre 37. Jacob habita en Canaan, dans le pays où son père avait séjourné en immigré. Voici la généalogie de Jacob. Joseph, à l'âge de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. C'était un garçon qui accompagnait les fils de Bilha et les fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, autre nom de Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce rêve que j'ai fait, je vous prie. Nous étions au milieu des champs, à lier des gerbes. Soudain, ma gerbe se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, vas-tu donc être roi sur nous? Vas-tu être notre maître? Et ils le détestèrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le rabroua et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Devons-nous venir nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais son père garda le souvenir de cet incident. Les frères de Joseph allèrent faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères font paître le troupeau à Sichem, n'est-ce pas? Viens, je vais t'envoyer auprès d'eux. Il répondit, d'accord. Il reprit, va voir si tes frères vont bien. Et si le petit bétail va bien, je te prie, tu me rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. L'homme lui demanda, « Que cherches-tu ? » Il répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph poursuivit son chemin à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà le maître rêveur qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'un animal féroce l'a dévoré et nous verrons bien ce qu'il adviendra de ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « N'attentons pas à sa vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main sur lui. » C'était pour le délivrer de leurs mains afin de le ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de laudanum qu'ils emportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à couvrir son sang? Venez, vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites vinrent à passer. Ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Ruben revint à la citerne, mais Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'est plus là. Et moi, où puis-je aller maintenant ?» Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, regarde, je te prie, pour voir si c'est la tunique de ton fils. » Il regarda et dit, « C'est la tunique de mon fils. Un animal féroce l'a dévoré. Joseph a été déchiqueté. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant bien des jours. Tous ses fils et toutes ses filles s'efforcèrent de le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Ainsi son père le pleura. Or les Madianites avaient vendu Joseph en Égypte à Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, commandant des gardes. La famille de Jacob n'a pas grand-chose à envier à la famille Ewing, pour ceux qui ont peut-être un jour regardé une série planétairement connue du nom de Dallas. Tant et si bien que, je me suis beaucoup demandé si j'allais le faire ou pas, mais on pourrait chanter quelque chose du genre, peut-être ça vous rappellera des souvenirs, « Hébron, ton univers impitoyable !» Et impitoyable, il l'était. Et pour bien comprendre notre récit, pour bien comprendre la tragédie que nous venons de lire, il faut que nous regardions pendant quelques instants dans le rétroviseur. Les dysfonctionnements de la famille Jacob ont éclos sur d'autres dysfonctionnements, sur le terreau d'autres dysfonctionnements, des dysfonctionnements plus anciens. Et c'est malheureusement souvent ainsi. Je ne vais pas pouvoir entrer dans tous les détails, je vais me contenter de faire une sorte de catalogue sommaire. Au registre des dysfonctionnements passés, nous pouvons commencer par Jacob lui-même, qui, souvenez-vous, a trompé son père sur le conseil de sa mère pour voler le droit d'aînesse à son frère. Ça commence plutôt fort. Jacob trompe son père sur le conseil de sa mère pour voler le droit d'aînesse à son frère. Jacob, un père trompeur, usurpateur, c'est d'ailleurs le sens du mot Jacob, du nom Jacob en hébreu, un nom que Dieu a changé en Israël, qui veut dire Dieu combat. Un père trompeur, une grand-mère manipulatrice, dont Jacob était le favori, un frère rempli de haine, prêt à tuer Jacob, ce qui va obliger Jacob à fuir pour quasiment tout le reste de sa vie. Mais Jacob le trompeur va lui aussi être victime de la fourberie des autres. C'est Laban, son oncle, chez qui il a fui, qui lui donnera en mariage Léa, sa fille aînée, alors que Jacob travaillait depuis 7 ans pour avoir la main de Rachel, la fille cadette, celle qu'il aimait. Et après cette tromperie, il faudra encore 7 années de travail pour son oncle, pour que Jacob puisse enfin épouser Rachel. La Bible n'en dit pas grand-chose, quand même quelques petites allusions, mais nous comprenons tous, je pense, facilement qu'il devait exister une grande rivalité entre ces deux sœurs. Rivalité et jalousie exacerbées par le fait que Rachel, la femme que Jacob aimait, était stérile. Et vous savez qu'à l'époque, la stérilité, c'était une honte, c'était une infamie. Et cette honte et cette infamie étaient amplifiées par le fait que Léa avait déjà donné plusieurs enfants à Jacob. À ce tableau déjà bien sombre, il faut ajouter quelques autres épisodes qui vont marquer cette famille, dont le viol de Dina, la fille de Jacob et de Léa. Un viol qui va entraîner des représailles sanglantes de la part de ses frères, c'est-à-dire des frères de Joseph. Et c'est lors de cet épisode, que l'on peut lire quelques chapitres avant celui que nous avons lu, qu'un trait de caractère important va apparaître, en tout cas dans le récit biblique, chez Jacob. Et on pourrait le nommer ainsi, sa passivité ou peut-être sa lâcheté. Un trait que l'on constate aussi dans notre récit. Mais ce n'est pas fini. Et le tableau s'obscurcit encore. Parce qu'il faut maintenant y ajouter l'inceste d'un des fils de Jacob, Ruben, le fils aîné de Léa, qui va coucher avec une des concubines de son père, Bilha, c'est-à-dire la mère de deux de ses demi-frères, Dan et Naphtali. Je vous disais que ça n'avait rien à envier à la famille Ewing. Et là aussi, quand nous lisons ce récit, nous devons constater le silence et la passivité de Jacob. Alors certains commentateurs ont argumenté que Jacob n'était pas au courant, que ça n'est pas arrivé à ses oreilles. On aurait peut-être pu le penser s'il n'y avait pas ces paroles que Jacob va prononcer à la fin de sa vie quand il réunit ses fils pour leur donner la bénédiction. Et nous lisons dans Genèse chapitre 49 versets 3 et 4, Ruben, donc il s'adresse à son fils aîné, Ruben, tu es mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as alors profané mon lit en y montant. Et nous constatons qu'à l'évidence, Jacob était au courant de tout cela, mais il n'avait, semble-t-il, rien dit jusque-là. En tout cas, rien dit quand il aurait peut-être fallu le faire. À ce tableau qui est maintenant noir anthracite, il faut encore ajouter, pour terminer, la mort de Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, la mère de Joseph et la mère de Benjamin. Une mort qui est survenue au moment de la naissance de Benjamin. Et si on fait un petit peu la chronologie des événements, on se rend compte qu'il ne se passe pas tant de temps que ça entre le moment où Jacob peut enfin épouser Rachel et le moment où elle décède en couche lors de la naissance de Benjamin. Cette épouse que Jacob a tant désirée et tant attendue va mourir après quelques années. Et Jacob va ainsi reporter toute son affection, d'une certaine manière, sur Joseph. C'est donc une famille pleine de blessures, de dysfonctionnements que nous découvrons au début de cette histoire qui commence bien mal. Une histoire qui commence bien mal, c'est le titre que j'ai voulu donner au message de ce matin. Et tout ce que nous venons de dire au sujet de la famille de Jacob fait le lit, le terreau du récit que nous venons de lire. Ainsi, après ce regard dans le rétroviseur, nous ne sommes finalement pas très surpris de lire le favoritisme, la jalousie et la haine qui existaient au sein de cette famille. De la jalousie et de la haine nourries, je pense en grande partie, par la faiblesse de Jacob, qui, dit le texte, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Pourquoi ? Parce que, continue le texte, Joseph était un fils de sa vieillesse. Et puis nous pourrions rajouter parce que Joseph était le premier-né de son épouse bien-aimée, Rachel. Jacob aurait sans doute bien fait de se souvenir de son enfance et des dégâts causés dans sa propre famille par le favoritisme. Le favoritisme du père pour Ésaü, son frère, et le favoritisme de Rebecca, sa mère, à son égard. Une conduite insensée qui a fini par le séparer des siens, le séparer de sa mère et de toute sa famille, et qui va maintenant le séparer de Joseph, son fils. Que Jacob ait eu une affection particulière pour Joseph peut sans doute se comprendre. Ce qui est moins compréhensible à mes yeux et apparaît comme un véritable manque de sagesse, c'est d'en avoir ouvertement fait l'étalage auprès du reste de la famille. Jacob ne fait rien pour cacher sa préférence pour Joseph. Au contraire, un étalage qui ne pouvait finir que par produire du mauvais fruit. Les autres fils, il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Ils étaient peut-être sensuels, durs, trompeurs, rancuniers, j'en passe, mais ils n'étaient pas aveugles. Et tous les parents de plusieurs enfants savent combien cette question du favoritisme est sensible pour les enfants. Et c'est ainsi que Jacob fait faire une belle tunique pour Joseph, qui a alors 17 ans. À l'évidence, cette tunique était différente de celle de ses frères. C'était une tunique qui singularisait Joseph, qui marquait la différence de l'affection de son père pour lui. L'adjectif utilisé en hébreu pour décrire cette tunique a suscité beaucoup de commentaires chez les traducteurs et chez les commentateurs. Et c'est ainsi que, si on comparait les versions, on verrait qu'il n'y en a pas... presque pas deux qui se ressemblent. Parce que c'est un mot très rare et on ne sait pas trop comment le traduire. Donc on trouve tunique bigarrée, tunique princière, tunique de fine laine, tunique à pans multicolores, tunique de plusieurs pièces, tunique ample et longue, tunique à manches longues. Et au vu de toutes ces possibilités de traduction, il serait sans doute bien hasardeux de trancher. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que ce vêtement, quelle qu'ait été son apparence, qu'il ait eu des manches longues ou pas, qu'il ait été multicolore avec plusieurs pièces, peu importe, ce vêtement marquait le favoritisme de Jacob pour Joseph. Et c'est ça qui est important avec ce vêtement. Et quand nous lisons notre texte, c'est à ce stade du récit, quand Jacob donne cette tunique à Joseph, que nous lisons que ses frères se mirent à le détester. Pourquoi ? Parce qu'ils virent, verset 4, que leur père l'aimait plus qu'eux. Ils virent que leur père l'aimait plus qu'eux. Ils auraient pu se mettre à détester Jacob, leur père. Mais c'est toujours tellement plus facile de s'en prendre aux plus petits, de s'en prendre aux plus faibles. Et combien nous, parents et grands-parents, devons veiller à ne rien faire qui puisse susciter de tels sentiments chez nos enfants et chez nos petits-enfants. Et s'ils existent, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, s'ils existent alors à tort ou à raison, nous devons alors veiller à prendre le temps, veiller à prendre le temps de dialoguer, pour désamorcer cette bombe à retardement qu'est la jalousie au sein d'une famille. Et il semblerait que Jacob n'ait pas pris le temps de le faire. Et la haine des frères de Joseph était telle, dit le texte, qu'il ne pouvait plus lui parler paisiblement, gentiment, sans hostilité, verset 4. Et quand Jacob va envoyer Joseph voir si ses frères vont bien, le mot qui est traduit dans notre Bible par bien, c'est le mot qu'on connaît tous, le mot shalom. Le shalom a plusieurs traductions, le bien, le bien-être, etc. Et quand nous lisons au verset 4 qu'il ne pouvait plus lui parler paisiblement, c'est aussi le mot shalom avec une petite particule devant. Et ce lien entre ces deux versets nous fait comprendre que cette mission de Joseph était vouée à l'échec dès le départ. Et on peut facilement deviner les relations tendues qui existaient, hostiles, entre Joseph et ses frères. Et c'est donc dans ce climat détestable que la vie familiale a continué pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'une dernière goutte d'eau fasse déborder le vase. Et je veux parler ici des rêves de Joseph. Nous les avons lus, je ne vais pas m'étendre dessus. Des rêves qui, à l'évidence, pour celui qui connaît toute l'histoire jusqu'à la fin, vont se concrétiser. Nous savons que Joseph va dominer sur l'Égypte et nous savons aussi qu'il dominera sur sa famille. Mais des rêves que Joseph aurait très certainement mieux fait de garder pour lui. Des rêves qui vont attiser la haine de ses frères, puisque dans ces deux rêves, il est dit qu'il se prosterne devant lui. Je relis juste les réactions des frères de Joseph quand il leur partage ses rêves. Verset 5. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Verset 8. Ses frères lui dirent, « Vas-tu donc être roi sur nous ? Vas-tu être notre maître ?» Et ils le détestèrent encore davantage à cause de ses rêves et de ses paroles. Verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le rabroua et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait ? Devons-nous venir nous prosterner jusqu'à terre devant toi, moi, ta mère et tes frères ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais son père garda le souvenir de cet incident. Ces deux rêves sont très clairement dans notre récit la goutte qui va faire déborder le vase. La mèche, écrit un commentateur, a presque atteint le tonneau explosif. La mèche a presque atteint le tonneau explosif. Alors il se passe sans doute un certain temps entre ces deux rêves et l'épisode qui suit quand Jacob envoie Joseph pour prendre des nouvelles de ses frères et du troupeau, ses frères qui sont partis près de Sichem. Il y a là un petit débat qui n'est pas très intéressant pour nous, mais certains pensent que Rachel est encore vivante à ce moment-là. En tout cas, encore vivante dans les versets 2 à 11, puisqu'il est fait allusion à la mère de Joseph dans un des deux rêves. Il est donc possible que ces versets ne soient pas tout à fait au bon endroit et qu'il faille les placer chronologiquement avant le chapitre 35. Possible, mais pas indispensable à la compréhension de notre texte. Quoi qu'il en soit, on est surpris, j'ai été surpris, je pense que vous l'êtes aussi, de lire que Jacob envoie son fils Joseph s'enquérir du bien-être de ses frères. Était-il aveugle à ce point ? Au point de n'avoir rien vu de ce qui se passait dans la famille, rien compris de ce qui se passait sous ses yeux, n'avait-il pas vu, compris la haine de ses frères pour Joseph? Mais qu'avait-il donc compris? Quel manque de lucidité, quel manque de sagesse. Et Joseph est envoyé à l'abattoir. Et c'est comme ça que Joseph part en direction de Sichem. Sichem se trouve quand même à environ 80 km au nord d'Hébron, là où se trouve la famille de Jacob à ce moment-là. Ce n'est pas rien, 80 km, quand on n'a pas de moyens de locomotion comme nous les connaissons. Sichem est la ville où les frères de Joseph avaient commis le massacre, un massacre important, après le viol de leur sœur. On peut se demander ce qu'ils sont allés faire par là-bas. Seulement voilà, quand Joseph arrive, ils ne sont plus à Sichem, et on lui indique qu'ils sont allés à Dothan. Et Dothan, c'est encore 20 km plus au nord de Sichem. On est donc à une centaine de kilomètres de la maison. Joseph se trouve bien loin de chez lui, bien loin de la protection de son père. Avant de poursuivre le récit, j'aimerais juste souligner une chose concernant Joseph, à savoir son obéissance, et on aura l'occasion d'en reparler. Si son père était aveugle quant à la haine de ses fils pour Joseph, Joseph ne pouvait pas l'ignorer. Il lui parlait mal, on l'a lu. Et on peut imaginer tout ce qui va avec, et on peut imaginer la vie difficile qu'ils avaient rendue à Joseph depuis un certain temps. Et donc il fallait un véritable esprit de soumission pour obéir ici à son père qui lui demande d'aller s'enquérir du bien-être de ses frères. Quand ses frères virent Joseph de loin, toute la frustration accumulée pendant des années est remontée d'un coup à la surface. Et à peine l'ont-ils vu qu'ils se mettent à comploter pour le faire mourir. L'occasion était trop belle. Voilà, disent-ils, le maître rêveur qui arrive. Autre traduction, l'expert en songe. Plutôt ironique, mais révélateur des deux rêves qui étaient restés coincés dans la gorge des frères. Il est temps de laver cet affront et de le laver dans le sang. Et c'est ici que Ruben intervient pour sauver Joseph. Et il arrive à les convaincre de le laisser en vie, de simplement le jeter pour l'instant dans une citerne. Ruben montre ici un peu de bon sens qui lui a fait cruellement défaut jusqu'ici dans le récit biblique, et en particulier quand il est allé coucher avec la concubine de son père. Mais il est le fils aîné. Et il y a un espèce de sursaut ici chez Ruben. Et pour l'instant, ses frères lui obéissent. Et c'est comme ça que Joseph se retrouve dépouillé de la fameuse tunique au fond d'une citerne. Certainement une de ces citernes que l'on creusait pour recevoir, récolter l'eau de pluie pour abreuver les troupeaux. Il est significatif ici que ce soit la première chose que les frères de Joseph fassent quand il arrive, c'est de le dépouiller de cette tunique, symbole de toutes leurs blessures, symbole du favoritisme de leur père, symbole de la haine qu'ils vouent à leur frère. Et alors que Joseph est au fond de la citerne, ses frères passent tranquillement à table. À l'évidence, leur conscience est depuis longtemps anesthésiée. Peu de détails nous sont donnés ici, dans ce chapitre, quant à ce moment de la capture. Mais un peu plus loin, quand Joseph retrouvera ses frères en Égypte, nous avons, au chapitre 42, un verset qui nous donne un petit regard sur ce moment de la capture. Ils s'exécutèrent tout en se disant l'un à l'autre, « Vraiment, nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. » Et nous pouvons facilement imaginer que le repas ce soir-là, ou ce midi, je ne sais pas, s'est passé avec le fond sonore des cris de détresse, des appels au secours de Joseph pour ses frères, de ses supplications. Et alors que Ruben s'est éloigné pour une raison qui n'est pas précisée dans le texte, peut-être pour ne plus entendre les cris de Joseph, les autres frères voient passer une caravane de marchands en direction de l'Égypte, et Judas très facilement et très rapidement convainc ses frères de leur vendre Joseph. Une façon radicale à ses yeux de se débarrasser de lui sans verser le sang, parce que, prennent-ils quand même conscience, il est leur frère, de leur chair. Et c'est ainsi que Joseph est vendu pour 20 pièces d'argent, c'est-à-dire à peu près le prix d'un esclave. Et quand Ruben revient quelque temps après, il est trop tard, la citerne est vide. Ruben, en tant que premier-né, se sent responsable. Que va-t-il pouvoir dire à son père ? Une tromperie fera l'affaire. On n'en est plus à une près dans la famille Jacob. Il décide de prendre la fameuse tunique, de la tremper dans le sang d'un bouc qu'ils viennent d'égorger, pour faire croire à leur père que Jacob a été agressé, tué par une bête sauvage. Et c'est ainsi qu'ils trompent leur vieux père. Ça nous rappelle une histoire quelque temps auparavant. Et nous avons ici l'arroseur arrosé, le trompeur trompé. Et notre chapitre se termine sur la détresse de Jacob. Non seulement sur la détresse de Jacob, mais aussi sur l'indication de la prochaine étape pour Joseph, la maison de Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon. Joseph n'est pas encore tout à fait au bout de ses peines. La descente qu'il vient d'amorcer, qui a commencé par la descente dans la citerne, va encore aller plus profond. Mais ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, le décor est planté. Les frères de Joseph l'ont abandonné, mais comme va le montrer la suite du récit et de cette série, Dieu est avec Joseph. Ce n'est pas encore dit, mais bientôt le texte le dira. Et Dieu va soutenir son serviteur fidèle. Dieu va se servir de ce drame pour assurer l'avenir de son peuple. Peuple dont le séjour en Égypte avait déjà été annoncé à Abraham. Genèse 15, verset 13. Alors je voudrais terminer en posant cette question, que retenir de ce récit? Et j'aimerais brièvement souligner trois choses. La première concerne la passivité dont j'ai parlé. Cette attitude qui consiste à ne pas agir quand nous devrions le faire. Et la passivité, c'est souvent la solution de facilité dans notre vie. Mais la passivité ne fait que repousser les problèmes jusqu'au jour où la bombe à retardement finit par exploser. Il faut du courage et de la sagesse pour régler les problèmes au fur et à mesure dans notre vie. Pour dire ce qu'il faut dire au moment opportun et faire ce qu'il faut faire sans précipiter les choses, en recherchant la sagesse du Seigneur pour le faire au moment opportun. Et Dieu veut nous y aider et nous pouvons lui demander sa sagesse si nous sommes en face d'une situation qui mériterait que nous intervenions, que nous parlions, que nous fassions quelque chose. C'est vrai dans toutes nos relations. Et c'est particulièrement vrai dans les relations familiales et dans l'éducation de nos enfants. Ne laissons pas les choses s'empiler. La deuxième chose que je voudrais souligner concerne les sentiments que nous avons évoqués et qui sont visibles dans ce texte, tels que la jalousie, la haine, le ressentiment, l'amertume. Mes amis, nous ne devrions jamais ignorer ces choses dans notre cœur, parce qu'elles ne sont jamais anodines. Nous ne devrions jamais penser que l'amertume, le ressentiment, la jalousie, la haine vont partir d'elles-mêmes. Ce n'est pas vrai. Au contraire, ces choses finissent toujours par grandir en nous, jusqu'au moment où nous perdons le contrôle. Jusqu'au moment où nous ne pouvons plus maîtriser nos propres sentiments. Jusqu'au moment où elles nous font faire des choses que nous allons finir par regretter. Alors si de tels sentiments sont dans notre cœur ce matin, quelle qu'en soit la raison, demandons au Seigneur de nous aider à faire le ménage dans notre cœur. Parce que dans sa grâce, il veut nous aider. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux ce verset qui dit « Poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, aucune racine d'amertume, en produisant des rejetons, ressentiment, jalousie, haine, etc., ne cause des perturbations et que plusieurs n'en soient souillés. » Oui, l'amertume dans notre cœur, et c'est vrai de tout ce cortège d'émotions et de sentiments qu'elle génère, produit toutes sortes de rejetons, jusqu'à la haine si nous n'intervenons pas. et qui finit par affecter profondément notre vie et celle de ceux qui nous entourent. La troisième et dernière chose que j'aimerais souligner, c'est la souveraineté de Dieu. Pour l'heure, elle n'est pas très évidente dans notre texte, je le reconnais. Mais la suite du récit va clairement montrer que Dieu est tout sauf absent de cette histoire. Et cela nous rappelle que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas les circonstances que nous vivons que Dieu en est absent. Ce n'est pas parce que nous souffrons et vivons des choses difficiles que Dieu n'est pas en train de nous conduire. Ce silence de Dieu à ce moment du récit nous dit tout cela, nous rappelle tout cela. Et tout cela sera dit explicitement plus tard dans le récit. Il y a donc ici, dans ce drame que nous avons un peu décortiqué ensemble ce matin, un appel à faire confiance à Dieu. Un appel à faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances de notre vie. Même quand j'ai le sentiment que Dieu m'a abandonné, même si j'ai le sentiment que Dieu est absent de cette difficulté qui me chagrine, même quand il semble que Dieu est aux abonnés absents. Que Dieu nous accorde la grâce de toujours lui faire confiance, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il est celui qui n'est jamais bien loin de nous. Il est celui sur qui je peux toujours compter. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.